président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Un cœur rouge, il y rue d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le teint. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, sergé des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Martin Senevitz. Martin, bonjour.
Bonjour, Mariama.
Bien, alors je te reçois pour ton excellent livre Haymarket, récit des origines du 1er mai. C'est ça.
C'est exactement ça.
Aux éditions Luxe et dans la collection Instinct de Liberté. Alors, quand on ouvre ton ouvrage et qu'on se pose la question de la collection, alors, on apprend que la collection Instinct de Liberté propose des textes susceptibles d'approfondir la réflexion quant à l'avènement d'une société nouvelle, sensible aux pratiques libertaires. Alors là, ça nous parle, tout de suite.
Oui, j'imagine assez, oui.
Et en lisant ton ouvrage, on comprend mieux pourquoi il est dans cette collection et pourquoi, on ne s'est pas trompé, le Monde libertaire de novembre et de octobre ont fait une recension de ton ouvrage. Mais il n'y a pas que. Il y a d'autres recensions de ton ouvrage ?
Oui, tout à fait. Le Monde diplomatique de novembre, Le Monde des livres. Je sais que le livre a quand même marqué, en tout cas un petit peu par sa sortie. C'est vrai que c'est un sujet qui est connu, en tout cas. Pas forcément du grand public, mais d'un certain nombre de militants. Mais la manière dont j'aborde l'événement fait que je pense que ça a interpellé au-delà du monde militant, et puis aussi dans sa forme et sa structure. C'est que notamment Ernest London, sur Fahrenheit 451, était enthousiasmé par sa lecture.
D'accord. Alors, Martin... En quatrième de couverture de ton ouvrage, on a une petite bio très succincte qui dit que tu es enseignant à Tours, en France. Bon, oui. La précision est d'importance parce que Lux est une maison d'édition canadienne.
Tout à fait.
Que tu es passionné d'histoire politique et sociale et que Haymarket est ton premier ouvrage. Donc un premier ouvrage, bravo.
Merci.
Voilà. Alors, présente-toi à nos auditeurs, Martin.
Oui, chers auditeurs et auditrices, moi je suis enseignant maternel, mais j'ai un parcours militant et c'est vrai que ce sujet du 1er mai par mes rencontres militantes, il faut savoir que quand on milite, il y a une forme de tradition orale aussi, de passation de savoir, de qui se fait aussi par génération dans le militantisme. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à militer très jeune, je me souviens parfaitement d'anciens me dire « Tu sais d'où ça vient le 1er mai ?» Non, je sais pas. C'est Chicago. C'est une manifestation réprimée à Chicago. Ok. Et en fait... Pendant des années, j'ai milité sans savoir en fait ce qu'était Haymarket. Et un jour, sans savoir vraiment pourquoi, je me suis un peu plongé dedans et je me suis dit mais en fait c'est une histoire fabuleuse qui m'habite un petit peu inconsciemment depuis des années. Et il faut que je la raconte, il faut que le monde entier sache ça. Et voilà un petit peu la genèse de mon travail.
En tout cas. Ton récit est passionnant. Je ne l'ai pas lâché une fois que je l'ai eu en main. Et je suis sûre que d'autres feront pareil. Mais Haymarket, il faudrait le mettre pas seulement au 1er mai 1886. Et c'est ça qui est passionnant dans son ouvrage, c'est qu'il y a une résonance à l'heure actuelle. Et on va, plus que le portrait des 8 de Haymarket, on va expliquer le contexte dans lequel Haymarket a eu lieu, les luttes de l'époque et ce qu'on peut en tirer aujourd'hui pour nos luttes actuelles.
Alors là, tu me mets un sacré challenge, hein, parce que c'est vrai que il y a énormément de choses à dire sur ce,
oui, mais on va y aller pas
sur
à
cette
pas.
Question. Hein, évidemment, on peut peut-être commencer par dire le 1er mai finalement, parce que pourquoi le 1er mai? Le 1er mai aux États-Unis traditionnellement c'est la fin de l'année comptable des entreprises, donc c'est le moment où les salariés renégocient leur contrat de travail, leur salaire. Historiquement aux États-Unis c'était le jour où on en profitait, hein, pour se mobiliser, où les ouvriers se mobilisaient, et puis évidemment il y avait cette revendication phare qui était la journée de 8 heures. Donc le 1er mai en 1886, c'est un petit peu c'est même complètement le point d'orgue de cette revendication qui ne date pas de 1886, hein, qui est une revendication antérieure. Hein, le 1er mai 1886 va être le point d'orgue de cette revendication pour la journée de 8 heures. Alors, point d'orgue, pourquoi ? Parce que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, et en tout cas à Chicago, va y avoir une unité totale des organisations politiques et syndicales pour manifester ce jour-là, conjointement, pour la journée de 8 heures. Mmh. Et ça, c'est vraiment important.
Voilà. Alors, avant d'en arriver au 1er mai 1886, on va revenir au mot de Chicago. Mmh. On apprend avec ton excellent livre, je ne savais pas que Chicago c'était la déformation d'un mot indien déformé par les Français. Parce que moi, je pensais qu'il avait été déformé par les Américains. Pas du tout, c'est par les Français. Donc, on va revenir d'abord sur ce que c'est que le fait colonial américain contre les Amérindiens. Et ça, tu l'expliques très bien dans les premiers chapitres de ton Haymarketts.
Je trouvais vraiment important, en parlant de l'histoire sociale américaine, de ne pas occulter une partie de l'histoire américaine, qui est celle des Amérindiens, puisque c'est les indigènes, hein, les premiers occupants de ce territoire, et qui, on le sait, sont fait chasser, hein, il n'y a pas d'autre mot, même exterminer. Et en me plongeant dans l'histoire de Chicago, effectivement, j'ai découvert que c'était à la base un petit village algonquin, Potawatomi, exactement, qui s'appelait Chicago. Les premiers colons sont essentiellement français, des coureurs des bois, hein, c'est le terme retenu, hein, des trappeurs, ils négocient avec les Amérindiens, ils chassent, ils vendent des peaux, ils commercent avec les Amérindiens, plutôt en bonne entente, hein, d'ailleurs, hein, y a pas, les premiers colons européens et français en particulier sont pas particulièrement dans une optique de chasser les Amérindiens de leur territoire. Mais évidemment, c'est toujours le lot des rencontres, hein, aussi tragique que puisse-t-elle finir, mais en tout cas c'est le lot des rencontres, c'est qu'il y a toujours une part d'incompréhension, et ce Chicago, quoi, les Français vont l'appeler Chicago, hein, ce petit, vraiment tout petit village, 350 personnes, hein, c'est faut imaginer, hein, un lieu voilà qui est potentiellement fertile, puisqu'il est à proximité du lac Michigan, il est poissonneux, il y a moyen de chasser. Voilà, les Amérindiens qui s'y installent, ils ne s'y installent pas par hasard. Voilà. Oui. Et donc, chez Cagou, en français, que les Américains vont transformer
en Chicago. Voilà. Donc, les colons, parce qu'il faut dire ce qu'ils sont, les Blancs, amènent deux fléaux, les maladies et l'alcool.
Oui. Alors, ça, c'est vrai. Ils amènent ces deux fléaux, mais ils amènent un fléau pire, en fait, en filigrane. C'est ça que j'essaye de montrer. Alors, évidemment, je trouve que l'alcool va être un outil, une arme, en fait, hein, dont ils vont se servir. Les maladies... plus ou moins indirectement, parce qu'on sait aujourd'hui que les premières guerres bactériologiques, en fait, c'est les colons anglais et néerlandais en particulier, hein, qui n'hésitaient pas à catapulter des couvertures porteuses de maladies contre lesquelles n'étaient pas immunisés les Amérindiens. Ils n'hésitaient pas à catapulter des couvertures dans les camps des Amérindiens pour les décimer. Voilà, mais le vrai fléau, c'est ce que les Américains ont appelé plus tard la destinée manifeste, hein. C'est-à-dire la certitude qu'en fait ce territoire leur était manifestement et destinalement dédié. Hein, donc à partir de là, c'est Dieu qui leur envoie un message, en gros, hein, c'est comme ça qu'ils le justifient, et ils vont coloniser intérieurement ce territoire, donc de la côte atlantique jusqu'à la côte pacifique, et pour ça, il y a un obstacle. Les Amérindiens qui sont les occupants, qui les empêchent de réaliser leur projet, qui est quand même un projet colonial. Évidemment, mais derrière tout colonialisme, il y a aussi la volonté d'enrichissement.
Donc c'est un projet capitaliste.
Et voilà, on y vient, c'est exactement ça, c'est un projet capitaliste. Et donc les Amérindiens, l'extermination des Indiens, que j'essaye de décrire succinctement autour de l'histoire de Chicago, mais en fait elle s'est déroulée à peu près partout pareil, en fait c'est... Comment on fait pour repousser les Indiens toujours plus loin, toujours plus à l'ouest, de manière à pouvoir implanter des usines, à pouvoir s'enrichir sur ces territoires qui sont extrêmement fertiles. Hein. Là, Chicago, c'est le Midwest. Hein. Mm-hmm. On sait, ils vont planter du maïs, du blé, ils vont pouvoir faire de l'élevage, ils vont pouvoir extraire du charbon, il y a toute la richesse de l'eau aussi, des grands lacs, la glace, etc. Tout ça, c'est des richesses incommensurables dont il faut s'emparer. Et pour s'en emparer, il faut par tous les moyens possibles, plus ou moins légaux, hein, puisqu'il y a tout le jeu des traités. Hein,
Et des achats avec des sommes ridicules.
Oui.
20 000 $ pour Chicago, quand on se rend compte, on se dit c'est pas possible.
C'est ça. C'est ça, mais sauf que comme les Indiens n'étaient pas dans un rapport
mercantile.
Ils avaient des rapports commerciaux, clairement, mais ils n'étaient pas dans un rapport mercantile aux choses. C'est-à-dire que il y a un passage, je citerai pas complètement, mais de mémoire, c'est voilà les colons sont arrivés, tout comme les Indiens, ils cultivaient la terre, tout comme les Indiens, ils pêchaient, tout comme les Indiens, ils chassaient. Mais à la différence des Amérindiens, ils pêchaient plus que ce dont ils avaient besoin, ils cultivaient plus que ce dont leur famille avait besoin pour se nourrir. Donc ils sont déjà, quand même, malgré tout, dans un rapport mercantile à la nature et puis aux choses en général.
Oui.
Et ça les distingue
des Amérindiens. Alors, pour en revenir à Chicago... Une fois que les Indiens ont été repoussés, et tu décris très bien c'est une métaphore, le passage du dernier Amérindien vers la mort. En 1833, je donne les chiffres pour que les auditeurs se fassent une idée, et auditrices, il y avait 350 habitants. En 1840, il y en a 4000. En 1850, il y en a 30 000. Et en 1860, on est à 100 000 habitants, dont 20 000 Allemands. Et ça, c'est important. On va le souligner plus tard, pourquoi. Donc, voilà l'expansion de Chicago. Et ensuite, ça ne va pas arrêter. Ça va aller... Et en 1870, il y en a 300 000.
C'est ça.
À la veille de la Commune de Paris.
C'est ça.
Voilà. Donc.
Et l'année de la Commune de Paris, c'est le grand incendie de Chicago.
Tout à fait. Donc... Incendie qui dévaste la ville.
Quasiment intégralement.
Mais la solidarité s'organise et il y a la fameuse Relief and Society.
An Aid Society.
Aid Society, qui est constituée pour venir en aide aux habitants de Chicago. Alors, il y a quelque chose de particulier, typiquement capitaliste et américain même, mais typiquement capitaliste, on n'aide que ceux qui peuvent être, qui sont aidés selon certains critères. À savoir que ceux qui sont responsables de leur malheur, on ne les aide pas.
Exactement.
Comme si on pouvait être responsable de sa pauvreté.
Exactement. Il y a déjà, on voit dans... Effectivement, tu le décris très bien. On voit exactement dans cette Relief and Aid Society les contours d'une approche moraliste, alors inspirée aussi du protestantisme hein, en partie, mais dans laquelle, effectivement, on ne vient en aide qu'à ceux qu'on estime mériter, qu'on estime ne pas être responsable de leur propre malheur, comme si effectivement, certains avaient choisi d'être des miséreux. Alors le cynisme total hein, de cette histoire, parce que voilà le grand incendie de Chicago. Donc Chicago est intégralement ravagé par les flammes. Et cette association va être chargée de collecter des fonds qui arrivent de toutes parts, hein, puisque comme tu le rappelais, il y a beaucoup d'Allemands à Chicago, mais il y a aussi des Tchèques, des Français, des Polonais. Enfin, en fait, une grande partie de l'Europe, en fait, en raison du capitalisme et des crises du capitalisme, quitte l'Europe pour
un monde meilleur,
un avenir meilleur, et ils se retrouvent aux États-Unis. Et donc forcément le des fonds arrivent de partout, les familles qui sont restées en Europe envoient de l'argent, voilà. Donc et cette association est chargée de collecter les fonds. Sauf que non seulement elle décide de qui peut percevoir, mais en plus et c'est là que le cynisme est absolu et que le cynisme du capitalisme est absolu, c'est que en fait des gros industriels vont capter une partie de ces sommes à leur profit au détriment des nécessiteux qui se retrouvent sans abri, parce que les grandes fortunes, les barons voleurs, les milliardaires, hein, qui ont fait fortune sur les sur la misère des ouvriers, parce qu'ils sont sous-payés, et que de ces ouvriers qui se retrouvent vraiment à la rue, qui n'ont même plus de quoi ni se loger ni manger, et en fait ils réclament juste un logement, un toit, de quoi se nourrir, de quoi nourrir leurs enfants, et les barons voleurs qui sont déjà immensément riches, eux, bah, ils n'hésitent pas à capter une partie de cet argent. Alors, je suis prudent là-dessus, parce qu'il y a encore des héritiers et tout ça. Ça n'a jamais été ni jugé, ni prouvé, mais évidemment, les soupçons étaient tels, les enquêtes qui ont été menées à l'époque par les journalistes,
d'investigation de l'époque.
Voilà, exactement, les journalistes d'investigation de l'époque. Voilà, on montrait que qui étaient les véritables destinataires de cet argent. Ce qui débouche sur, c'est la fin de ce chapitre d'ailleurs, hein, qui croise le départ métaphorique de ce dernier Amérindien de Chicago. C'est le premier grand cri de révolte du peuple de Chicago, hein, des citoyens de Chicago, parce qu'ils vont dans la rue, ils vont réclamer ce qu'on leur doit.
Hein, les 20 000 personnes.
20 000 personnes qui
vont devant la mairie et réclament ce qu'on leur doit.
Voilà. Et les banderoles disent du pain ou du sang. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent, tu te souviens?
Oui.
Des coups. Voilà. Le cynisme. Alors, c'est le cynisme dans le cynisme. C'est-à-dire que l'argent des nécessiteux est accaparé, et quand ils viennent le réclamer, on leur tape dessus. Enfin, c'est vraiment d'une violence absolue. Et l'histoire de cette ville, c'est aussi intrinsèquement l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire cette histoire du cynisme et de la violence. Alors, le cynisme est une violence, mais la violence du capitalisme, dans lequel tu te tais, tu acceptes, ou sinon, de toute manière, t'opprime.
On t'opprime. Voilà. Alors, donc, ça, c'est la fin de ce chapitre. Et donc, ensuite, tu entames le portrait des 8, chapitre par chapitre, précis, le portrait des 8 de Haymarket. En commençant par le plus emblématique d'entre eux, c'est Albert Parson. Mais ce que je voudrais, c'est ne pas les présenter en détail dans l'émission, parce qu'on n'aura pas le temps.
Oui.
Mais ce que je voudrais, c'est montrer le contexte dans lequel cette lutte, parce que c'est une lutte, Haymarket, le contexte de cette lutte. L'Amérique, c'est une terre d'immigration. Donc, les Amérindiens sont génocidés. On leur confisque leurs terres, c'est un projet colonial, capitaliste. Les immigrés qui débarquent des bateaux sont pressurés et
exploités.
Donc, ils découvrent que ce qu'ils ont quitté en Europe les attend aussi aux États-Unis, à savoir une féroce lutte des classes.
C'est ça. C'est exactement ça. Alors, effectivement, on va pas s'épuiser à refaire le portrait de chacun des 8. Juste quand même pour signaler que un de mes objectifs, c'était de leur rendre hommage à égalité, hein, de manière équitable, parce que tous n'ont pas la même, disons, envergure en tant que militants. Malgré tout, je tenais à leur rendre équitablement hommage, parce que tous ont fait don d'eux-mêmes, hein, se sont sacrifiés pour la cause ouvrière, et donc je trouvais que c'était important. L'essentiel d'entre eux sont des immigrés allemands. 6 sur 8 sont des Allemands. 2 ne sont pas Allemands. Fielden, qui est né en Angleterre, hein, dans le Lancashire, et puis Parsons. Alors Parson, c'est un personnage exceptionnel. J'ai toujours tendance à le comparer à Eugène Debs ou à Jean Jaurès chez nous. C'est-à-dire que ça aurait été, c'était vraiment
un orateur,
un grand orateur, un militant d'exception, un grand intellectuel très convaincant,
mesuré dans ses propos,
très mesuré dans ses propos malgré sa radicalité. Hein. C'est-à-dire que c'était pas un social-démocrate, hein, c'était vraiment un révolutionnaire, mais malgré tout quelqu'un de très mesuré, très pondéré, et quelqu'un qui, bon, pour être assez honnête, qui est sans doute mon chouchou, disons, mais bon, j'en ai plusieurs des chouchous dans ce livre, mais voilà, Albert Parsons, c'est un parcours assez exceptionnel, hein. C'est un natif américain, déjà, c'est le seul natif américain des huit. Un descendant de...
Du second Mayflower,
des aïeux qui ont participé à la guerre d'indépendance.
Mais du mauvais côté sudiste, alors, entre guillemets.
Au moment de la guerre d'indépendance, il n'y a pas de bon et de mauvais côté. On est américain...
Historiquement, c'est du mauvais côté, puisque c'est celui des perdants, c'est les sudistes.
Oui, mais ce n'est pas tout à fait la guerre d'indépendance, ça c'est la guerre de sécession. Au moment de la guerre de sécession, lui, effectivement, il se retrouve du mauvais côté. Et là, je suis bien d'accord avec toi. Il habite au Texas. Ses frères rentrent dans l'armée du Texas. Alors, petite parenthèse, hein, pour bien comprendre la guerre de sécession, c'est que le Texas a est très à part, hein, dans la guerre de sécession et dans l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire que le Texas, eux, se sont déjà affranchis de la tutelle des Espagnols. C'est-à-dire que le Texas est, pour ainsi dire, un État dans l'État. C'est-à-dire qu'ils ont ce truc-là, et ils l'ont encore d'ailleurs d'une certaine manière, pas toujours très chouette, mais en tout cas, ils ont cette espèce d'esprit d'indépendance. Et quand arrive la guerre de sécession, ils s'assimilent au Sud, parce que c'est des petits propriétaires terriens, essentiellement, tous ne sont pas foncièrement esclavagistes, hein. Parsons ne l'est pas, ni dans sa famille. Mais en tout cas, il se retrouve là-dedans. Il a, je sais plus, 14 ans. Il fugue de chez son patron pour aller, pour s'engager, pour s'enrôler. Il participe à des batailles décisives, d'ailleurs, hein, de victoire du Sud, hein, contre le Nord. Mais bon, évidemment, pour qui connaît un peu, l'essentiel de la guerre de sécession ne se déroule pas au Texas et va se dérouler sur le front du Mississippi. Et en fait, il participe à la guerre jusqu'au bout. Et une fois démobilisé, en fait, il retourne dans la famille. Il trouve un petit boulot dans la presse, etc. Et puis, mais très rapidement, en fait, après la guerre de sécession, ses opinions changent. C'est-à-dire que il est séduit par le discours des républicains
et des réparations. Et
voilà. Exactement, la fameuse 40 acres et une mule,
hein, qui est à chaque des esclaves.
Exactement, hein. Voilà, c'est une étape vraiment importante, une promesse du Nord qui ne sera jamais tenue, qui est vraiment importante. C'est-à-dire que il suffit pas d'affranchir les anciens esclaves, il faut leur donner les moyens de leur subsistance. Et j'ai tendance à penser que chez Parsons, non seulement c'est une prise de conscience politique des trahisons des élites, mais aussi une espèce de conscience de classe, parce que quand on dit finalement le Nord n'avait fait que concéder l'affranchissement des esclaves noirs, ça ne rime pas à grand chose. D'ailleurs, un des personnages évoque le personnage de Sambo qui est affranchi, mais il veut travailler. Alors il y a un propriétaire terrien qui lui dit, bah d'accord, t'as qu'à moissonner mon champ de maïs, et donc il lui loue une mule, il lui loue le matériel agricole, et puis il faut payer la nourriture de la mule, si bien qu'au final Sambo se retrouve avoir travaillé pour rien. Il est même débiteur de celui pour lequel il a travaillé. Donc personne ne se prend conscience de ça. C'est-à-dire que les 40 acres et une mule, cette promesse donc d'offrir à chaque ancien esclave affranchi un petit bout de terre et une mule pour la labourer et la faire fructifier, et ben en fait cette promesse elle est usurpée, et au final c'est la même chose qu'avec les ouvriers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils travaillent 10, 12, 14 heures par jour pour des salaires de misère, tandis que ceux qui possèdent l'outil de production, eux, s'enrichissent sur la base de leur travail. Voilà, je vais pas faire un cours de marxisme maintenant, mais voilà. Et je trouve que ce parallèle chez Parsons, cette prise de conscience, elle est fondamentale. Mais effectivement, il vient de loin.
Et c'est lui qui est le plus remarquable des huit, hein, parce qu'il a un discours où il en vient à prôner l'égalité de tous, y compris des femmes.
Tout à fait.
Parce que son épouse n'est pas blanche.
Non. Effectivement. Lucy Parsons, qui est une figure du mouvement politique américain. Elle meurt en 1942, je crois. Mm-hmm. Donc elle vit très longtemps. Elle survit très longtemps à Albert Parsons. Elle a écrit un livre aussi sur lui ultérieurement. Elle est couturière. Elle est son égale. Elle milite tout comme lui au sein du mouvement ouvrier. C'est elle qui organise le syndicat des couturières au sein de la Central Labor Union, qui est le syndicat, disons, anarcho-syndicaliste associé à l'IWPA, auquel appartient aussi Parsons. Donc, et puis c'est une rencontre phénoménale. C'est-à-dire que Parsons, qui est passé du côté des anti-esclavagistes, sillonne le Texas pour le journal pour lequel il travaille, et puis un jour, il arrive dans une ferme et... il rencontre Lucy Parsons, qui est une descendante d'esclaves, qui a grandi elle-même esclave, enfant, et c'est l'amour. Enfin, voilà, c'est aussi une belle histoire d'amour. C'est une histoire d'amour politique, mais pas uniquement. Après, bon, je rentre pas dans les détails et je connaissais pas leur lien intime, évidemment, mais y a toute cette histoire et ils incarnent aussi toute cette histoire des États-Unis.
D'accord. Bien, nous allons faire une pause. Et nous allons revenir en deuxième partie sur le contexte de lutte. Alors, pour musique, je vous propose Justine Jérémy, que j'avais reçue dans l'émission consacrée au formidable et non moins avec beaucoup de blanc. Tu te rappelles, cher Jean? J'en rigole encore. Tu vas le dire? Oui, quelle émission on avait reçu Justine
Jérémy?
Bobby Lapointe, voilà. Et on va proposer une de ses chansons pour Tu fais soleil.
Avec ton petit air effronté qui sent l'amour et la santé, qui te donne un air de te foutre du monde, ta tête nue et tes boucles blondes, ah oui c'est sûr t'es plus pareil. Tu fais soleil, tu fais soleil. Que t'as depuis quelque temps, c'est sans doute l'effet du printemps. Je suis pas la seule à le remarquer. Y a quelque chose en toi qui a changé. Ah oui, c'est sûr, t'es plus pareil. Tu fais soleil, tu fais soleil. Dis, tu veux-tu être mon petit gars? Je te défendrai, je te battrai pas. Et puis si un jour on se dispute, jamais je te dirai choléra. Fumier, poison, comme on s'appelle. Quand on s'aime plus, quand on s'aime plus. Viens, descendons dans. Donne-moi ta main, je veux pas glisser. Cherchons un petit coin pour s'asseoir. Avec un buisson pour se cacher, on pourra camper jusqu'au soir. Personne ne viendra nous chercher. Personne ne viendra nous chercher. Avec ton petit air effronté qui sent l'amour et la santé, qui te donne un air de te foutre du monde, ta tête nue et tes boucles blondes, ah oui c'est sûr t'es plus pareil. Tu fais soleil, tu fais soleil, tu fais soleil, tu fais soleil.
« Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission consacrée à Haymarketz, récit des origines du 1er mai, avec son auteur Martin Senevitz. Martin, alors puisque nous avions terminé sur les luttes personnelles de Parson et de son épouse, on va aller dans les luttes plus globales et tu vas nous parler du syndicat IWPA, fondé à Pittsburgh.
Alors, oui. Alors, l'IWPA n'est pas à proprement parler un syndicat. C'est faut revenir un petit peu à la première internationale qui est avortée hein, à cette époque-là. Et en 1881, à Londres, est fondée l'IWPA. International Working People Association, qui n'émergera aux États-Unis que 2 ans plus tard, à Pittsburgh, effectivement, c'est le fameux manifeste de Pittsburgh, qui jette les bases d'une nouvelle internationale sur des bases égalitaristes, libertaires et révolutionnaires.
Alors libertaire, c'est voilà. Ça c'est important.
Il y a cette dimension-là, effectivement.
Voilà. Mmh.
Il y a cette dimension-là. L'IWPA, elle est fondée effectivement à Pittsburgh, essentiellement par ce qu'on va appeler après des anarchistes. Hein. Alors il y a des anarchistes, des anarcho-syndicalistes, des socialistes révolutionnaires, hein, tels que Parsons. Parsons ne se revendiquait pas d'ailleurs de l'anarchisme. Mm-hmm. Mais en tout cas, les bases et le contenu du manifeste de Pittsburgh sont sans équivoque hein, sur la réappropriation des moyens de production, l'auto-organisation, l'abolition de l'État, le fédéralisme, le mutualisme, toutes ces valeurs qu'on va retrouver ensuite dans les principaux courants de l'anarchisme fin 19e début 20e en fait, ils sont là, ils sont dans l'IWPA. Et donc Parsons et les autres font partie des fondateurs de ce mouvement qui va essaimer de manière assez inégale sur le territoire états-unien et qui va par contre prendre un essor particulièrement important à Chicago.
Oui, parce que Chicago, c'est une ville entreprise. D'ailleurs, même à un moment donné, tu expliques bien qu'il y a une entreprise, McCormick, où on met déjà les bases de ce qui va être les bases du Fordisme.
Exactement. Alors, pour finir sur l'IWPA donc n'est pas un syndicat. Mais par contre, une fois qu'on a posé les bases de grands principes politiques, il faut trouver l'ancrage, disons matériel, comment on lutte pour obtenir ça. Et un des axes qui va être privilégié par l'IWPA, c'est le syndicalisme. C'est-à-dire comment, étant donné que c'est aux travailleurs de se réapproprier l'outil de production, et d'abolir le salariat, il faut aller dans le monde du travail. À l'époque, à Chicago et aux États-Unis, le principal syndicat, c'est les Chevaliers du Travail, qui est une organisation
d'obédience maçonnique.
Voilà, qui fonctionne un petit peu comme le fonctionnerait une société maçonnique, et surtout qui est énormément dans le lobbying, dans la négociation. Plus que dans les luttes, dans la grève. Parsons fait partie de cette organisation, il en fera partie d'ailleurs jusqu'à sa mort, tout en étant à l'IWPA. Mais par contre, ce que fait l'IWPA, c'est qu'il développe des syndicats de branche, donc c'est la fameuse Central Labor Union, hein, l'union, la centrale syndicale du travail, en fait, hein, donc par branche de métier, donc il y a les typographes, les cigariers, les couturières, enfin
les
voilà.
Les bouchers,
enfin tous les corps de métier.
Les bûcherons.
Les chauffeurs de tramway, voilà, vraiment par branche, ils organisent de manière à ce que déjà ils soient implantés dans les entreprises et qu'ils puissent lutter directement et aussi faire ce travail de conscience, de prise de conscience et de prise de conscience par la lutte. C'est-à-dire que c'est parce qu'on va lutter, c'est parce qu'on va se mettre en grève qu'on va arracher quelque chose. Aussi minime soit le gain qu'on va avoir dans le syndicalisme, il est à prendre. Et c'est un gain aussi en termes de conscience que, unis, on est plus fort que tout seul. Voilà. Et il y a cette idée qui est présente derrière et que je partage à titre personnel, si ça peut vous intéresser. Mais voilà, qui va aider, qui va structurer aussi le mouvement ouvrier, qui va structurer le mouvement ouvrier, en tout cas, fortement à Chicago, et puis qu'on va retrouver après, plus tard, chez les IWW, hein, mais plus tardivement. Et donc effectivement, la question de l'organisation du travail, Ford dit s'être inspiré non pas des usines McCormick, mais des Union Stockyards, les abattoirs de
les abattoirs
de Chicago,
autant pour moi.
Auxquels je dédie un chapitre entier, parce que on peut pas parler de Chicago sans parler des abattoirs de Chicago. Upton Sinclair l'a fait mieux que moi il y a très longtemps, mais sauf que moi, la scène se déroule un petit peu avant la scène que décrit Upton Sinclair dans la jungle. Et effectivement, Philip Armour, le grand industriel, lui va faire fortune sur la viande. En fait, hein, donc faut imaginer que les abattoirs de Chicago, à la base, c'est pas des abattoirs, hein, c'est juste des enclos, en fait, où les animaux arrivent par train, et puis c'est une gare de triage, et puis ensuite ils sont répartis ailleurs. Sauf que les industriels, ils ont un problème, enfin les gros négociants de essentiellement de bœuf, hein, ont un gros problème, c'est que les bœufs perdent de leur poids en chemin. Donc il faut trouver une solution, et la solution, c'est les abattoirs, abattre les animaux sur place. Et donc Philip Armour va faire fortune en développant un système dont Ford s'inspirera ensuite, hein, Ford le dit clairement, je me suis inspiré des abattoirs de Chicago. Voilà, c'est tout un système assez sordide dans lequel les animaux arrivent, ils sont cornaqués, ils suivent un tapis roulant, et puis les tueurs sont là et qui les attendent. Les tueurs, c'est vraiment le nom du poste de travail de ces bouchers, hein. Donc les ouvriers ont un grand marteau, ils tuent à la chaîne les bœufs qui arrivent devant eux, puis ensuite ils sont éviscérés, leur sang est vidé, etc. etc.
On garde les morceaux les plus importants.
Exactement, et on emballe tout ça.
On emballe tout ça et on les met dans le train réfrigéré.
Voilà, mais avant d'en arriver là, justement, il y a tout un truc, c'est parce que les capitalistes, d'abord ils commencent comme ça, puis ensuite ils se rendent compte, ils répondent à un premier problème, celui de la perte de la masse de viande par le trajet. Ensuite, ils coupent la viande, mais ils sont confrontés à deux problèmes, c'est-à-dire déjà la conservation de la viande pour son transport et pour sa vente, parce qu'il y a telle quantité de viande que voilà, il faut les conserver, la viande ça varie très vite. Et l'autre problème, et le premier problème qu'ils rencontrent, c'est celui de l'hygiène, parce qu'en fait tous les déchets de boucherie, viscères, sang, etc., sont jetés directement dans les rivières
qui vont atterrir dans le lac Michigan,
exactement, dans lequel est puisée l'eau potable
qui, de la ville.
Voilà, donc ce qui crée des problèmes de maladie, voilà. Et donc Philip Armour, dans son ingéniosité mercantile, arrive à trouver une solution.
Les tanneries.
Il y a des tanneries, il fabrique des bonbons, des bougies, de la Pepsi, des farines animales.
À part le cri, tout est recyclé.
Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Philip Armour avec son cynisme total, c'est-à-dire que tout est utilisé dans l'animal. Tout sauf le cri. Hein, c'est vraiment Upton Sinclair reprend aussi cette citation de Philip Armour, voilà. Et un deuxième arrive derrière, c'est Gustavus Swift. Donc il y a deux grands noms, voilà, c'est Armour et Swift. Et Swift, lui, il va réussir ils vont extraire des milliers de tonnes de glace des lacs Michigan, dans le Wisconsin aussi, où on allait chercher la glace. Ils acheminent la glace qui leur permet de convoyer la viande pour tout le pays, hein. Ils nourrissent les abattoirs de Chicago, eux seuls nourrissent la moitié du pays, hein.
Donc
c'est colossal. Et lui, Swift, il va réussir à mettre au point des wagons réfrigérés. Voilà, ça c'est pour l'histoire des industriels. Et à l'envers du décor, évidemment, c'est l'hygiène, les conditions de travail des ouvriers qui sont payés à la tâche, c'est la dangerosité aussi, hein, parce que les cadences de travail et la dangerosité, les blessures, etc., les salaires de misère, les ouvriers qui s'entassent ils appellent ça Packington, hein, puisque les abattoirs deviennent un lieu de packing, hein, c'est-à-dire de mise sous emballage. C'est Packington, c'est la ville de ceux qui mettent la viande sous emballage, quoi. Et donc là s'entassent des milliers d'ouvriers sous-payés vivant dans des conditions d'hygiène lamentables. Donc le ferment, là pour le coup, d'une autre ébullition, c'est celle de le ferment de la lutte sociale.
Voilà. Alors à un moment donné, c'est passionnant. Tu rappelles que 1871, c'est la Commune de Paris, et le 18 mars est célébré à Chicago.
Tout à fait. L'IWPA célèbre chaque année, le 18 mars, l'avènement de la Commune de Paris. C'est vraiment... il faut imaginer, hein, c'est, tu l'as dit, hein, un nombre colossal d'immigrés, hein, très peu de natifs américains en réalité, hein, et les natifs américains sont eux-mêmes des descendants d'immigrés, mais en fait, beaucoup d'immigrés européens récents, en fait, qui ont été, alors soit qui ont quitté l'Allemagne suite à la révolution de 1848, et de toute manière, qui ont été très fortement marqués par la Commune de Paris, hein, en 1871. Et donc, le 18 mars, systématiquement, ils réservent des salles immenses, il y a des meetings, une année, il y a même la femme de l'Écluse, hein, qui est invité pour y participer. Les milices ouvrières viennent protéger les lieux, hein, de toute menace d'incursion de la police ou des milices du patronat. Donc, puisque les ouvriers sont organisés autour de l'IWPA jusqu'à être armés en milice, hein. Donc il y a vraiment ça. Et la Commune de Paris demeure un élément, disons.
Fédérateur
du mouvement. Et alors on parlait de Parsons tout à l'heure, de Parsons dit justement quelque chose, je trouve, d'assez intéressant sur la question de la lutte armée, de la prise du pouvoir, de comment s'organiser. Et parce que certains dans son organisation disent, bah, il faut qu'on prenne Chicago, on a les moyens, et effectivement, ils auraient sans doute même eu les moyens de prendre Chicago. Et Parsons a analysé la commune, il sait. Voilà. Il sait que faire une commune comme ça, comme ça s'est fait à Paris, si on le fait à Chicago, le sort qui sera réservé à la commune, à une commune de Chicago serait le même sort que celui qui a été réservé à la Commune de Paris, c'est-à-dire un écrasement dans le sang par toutes les forces militaires du pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler en fait un mouvement comme ça, une ville comme ça. Et il a cette phrase, il dit quand bien même on prendrait Chicago, on ne pourrait pas s'en aller avec.
Ce qui est tout à fait exact.
C'est ce qui fait de lui, je pense, un personnage très lucide de la situation et son analyse.
Alors, il n'y a pas que le fédéralisme, la Commune de Paris, il y a aussi la propagande par le fait.
Tout à fait.
Qui est aussi une autre façon qu'ont les gens d'essayer de changer leur sort. Est-ce que tu peux expliquer à mes auditeurs, auditrices, ce qu'il en est exactement?
Oui. Alors, faut imaginer que comme je disais, donc le 1848, 1871 ont fortement influencé l'IWPA. Mais il y a autre chose qui a fortement influencé ces militants. C'est à la fois les anarchistes russes, hein, et puis aussi tous les propagandistes par le fait allemands ou suisses, qui étaient assez organisés en Europe à cette époque. Donc Louis Ling, par exemple, va rencontrer directement ceux qui vont commettre les attentats contre l'empereur Guillaume. Hein. Voilà. Donc la propagande par le fait. Alors c'est parfois assimilé au fait de commettre des attentats. La propagande par le fait, c'est un petit peu plus général. La propagande par le fait, c'est l'idée qu'il faut créer des actions qui choquent l'esprit public, qui marquent, ça peut être un événement, hein, je peux prendre, je sais pas, aujourd'hui, hein, des militants de la cause écologiste qui vont asperger de faux sang une façade pour...
De Total Energy, par exemple.
Voilà, de Total Energy, voilà. Donc, ça, c'est de la propagande par le fait.
Hein,
c'est de la propagande par le fait. Sauf qu'effectivement, une fois qu'on a épuisé un petit peu toutes ces manières d'agir et qu'on a envie de transformer radicalement la société, eh ben, on se dit,
Il y a d'autres méthodes.
Et qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Et c'est ce qu'une partie de ces militants vont faire. C'est-à-dire, on a parlé des milices ouvrières, hein, s'organiser en milice. Hein, c'est
tout à fait.
Quelque chose d'assez exceptionnel. Je peux en dire un mot.
Oui, s'il te plaît.
Parce que les milices, c'est quelque chose aux États-Unis à l'époque, il faut imaginer. Et encore aujourd'hui, c'est une manière de montrer son patriotisme. Hein. La guerre d'indépendance en 1776 s'appuie sur les milices. Hein. Les Anglais sont chassés des États-Unis, perdent cette guerre d'indépendance. Parce que les Américains, qui veulent l'indépendance, sont organisés en milices. Donc les milices, c'est quelque chose d'intrinsèquement lié au fonctionnement des États-Unis.
Et le deuxième amendement qui veut qu'on peut s'autodéfendre.
S'autodéfendre et être armé, exactement. Donc avec toutes les dérives qu'on perçoit à l'heure actuelle. Mais voilà, il y a ce truc-là. Sauf que, effectivement, les ouvriers, ils vont prendre les choses au mot. Les immigrés, donc il va y avoir des l'Irish Labour Guard, par exemple, la milice armée des Irlandais.
Celle des Polonais, celle des Tchèques.
Tous sont leur milice. Et les Allemands, évidemment, qui font de la Lehrunwehrverein, qui est une milice. Alors, rien qu'à Chicago, ils ont 4 ou 5 sections organisées en bataillons, ils ont leurs uniformes, ils sont armés, ils font des concours de tir, ils organisent même des simulations de bataille. Voilà, donc ils sont organisés en milice d'autodéfense ouvrière. Donc, c'est-à-dire prêts à l'affrontement. C'est-à-dire que voilà, on voit qu'à la fois, il y a toute cette propagande par le fait qui va venir irriguer ça. L'histoire récente de l'Europe, de la Russie à l'Allemagne, en passant par la Commune de Paris. Et puis aussi, l'intégration, parce que en fait, c'est une forme d'intégration. C'est-à-dire qu'ils s'intègrent, ils assimilent les formes de fonctionnement de leur nouveau pays, qui est de s'organiser en milice pour s'autodéfendre. Sauf que là, c'est des milices d'autodéfense ouvrière, ce qui, évidemment, aux États-Unis ne va pas aller de soi de la part des autorités inféodées au capitalisme.
Bon, il faut savoir qu'ils ont en face d'eux une agence, et pas n'importe laquelle, Pinkerton, qui a eu dans ses rangs un écrivain célèbre, Dashiell Hammett.
Je l'ignorais.
Ah si. J'adore Hammett, mais je n'oublie pas qu'il a travaillé à un moment donné pour Pinkerton.
Alors l'agence Pinkerton, tristement célèbre agence Pinkerton, était à la base une agence de détectives fondée par Monsieur Pinkerton d'ailleurs. Je passe sur les détails, mais à la base, voilà, ils accomplissaient ce que fait une agence de détectives privée. Puis rapidement, en fait, ils ont, comme l'État fédéral n'était pas suffisamment structuré en termes de sécurité, et qu'il y avait énormément de banditisme. Hein, on connaît les Jesse James et compagnie. Voilà, toutes les légendes du Far West. Rapidement, l'agence Pinkerton a été sollicitée, en fait, pour capturer et récupérer tous ces truands, bandits de grand chemin, etc. Je sais pas comment les qualifier, mais
hors la loi,
exactement, outlaws. Mais avec l'essor du capitalisme, évidemment, c'était une aubaine pour les patrons d'avoir juste à débourser un peu d'argent pour contrer l'offensive ouvrière dans la lutte des classes en cours.
Et les infiltrer.
Et les infiltrer. Alors voilà, leurs actions étaient multiples, hein, c'est-à-dire à la fois infiltration pour faire du renseignement, donc, avec une porosité avec le patronat et la police. Protéger les jaunes, hein, donc les briseurs de grève, hein, les Américains appellent des scabs, les croûtes, hein, donc nous qu'on appelle les jaunes en France, mais c'est la même chose. Donc les briseurs de grève qui étaient recrutés par les patrons en cas de grève, hein, c'est-à-dire quand les ouvriers faisaient grève, ils recrutaient des ouvriers de remplacement, des jaunes.
Et ils leur promettaient ce qu'ils ne promettaient pas à savoir les 8 heures.
Exactement, ils leur offraient plus. Alors, c'était des promesses, puisque de toute façon, c'était des contrats qui n'engageaient pas, puisque c'était des contrats ultra précaires, hein, qui duraient que le temps de la grève, mais ça leur permettait de recruter beaucoup plus facilement et d'avoir de la main-d'œuvre pour assez facilement, et donc de briser effectivement les grèves. Et Pinkerton intervenait là pour protéger
Les
briseurs de grève, des piquets de grève assez hostiles, hein, il faut le dire, et on peut le comprendre, des grévistes qui se retrouvaient, eux, mis sur le carreau, en dehors de leur usine, pendant qu'on brisait leur grève. Donc les Pinkerton jouent un rôle vraiment dégueulasse, hein, le terme, il n'y a pas d'autre terme, là-dedans, et c'est en ça qu'on peut dire qu'ils sont effectivement tristement célèbres.
Voilà. On va faire une pause avec une deuxième chanson de Justine Jérémy, qui s'appelle Distraite, de l'album Distraite. Et la chanson, c'est Distraite. Et nous allons revenir en troisième et dernière partie pour expliquer le côté immigration de la lutte.
Distraite.
moi distraite à ma fenêtre, je regardais, n'ose parler. À quoi je pense? À rien, peut-être. Et je regarde le temps passer. Et voici ce qu'ils me disent, protégeant les yeux du soleil. Moi je m'approche, dressant l'oreille. Le bonheur dure peu dans la vie. Et moi distraite à ma fenêtre, je regarde et n'ose parler. À quoi je pense? À rien, peut-être. Et je regarde le temps passer. Je regarde le temps passer. Qu'il est charmant ce paysage, peu compliqué mais que veux-tu. Ce n'est qu'une marée de feuillage où s'élève un clocher pointu. Et moi distraite à ma fenêtre, je regarde et n'ose parler. À quoi je pense? À rien, peut-être. Et je regarde le temps passer. Ton cœur par ma voix appelée palpite au bout de la vallée. Je reste là jusqu'au soir en espérant de te revoir. Et moi distraite à ma fenêtre, je regarde et n'ose parler. À quoi je pense? À rien, peut-être. Et je regarde le temps passer. Je regarde le temps passer. Elle s'envole ma chanson, dans la montagne elle s'égare. Même si ce grand mur nous sépare, je t'attendrai jusqu'au soir. Je t'attendrai jusqu'au soir. Moi distraite à ma fenêtre, je regarde et n'ose parler. À quoi je pense? À rien, peut-être. Et je regarde le temps passer. Moi distraite à ma fenêtre, je regarde et n'ose parler. À quoi je pense? À rien, peut-être. Et je regarde le temps passer. Et je regarde le temps passer. Et je regarde le temps passer. Et je regarde le temps passer.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne, et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de l'émission avec Martin Senevitz pour son excellent ouvrage « Haymarket, récit des origines du 1er mai », édition luxe, pour un prix modique de 12 euros, vraiment. Alors Martin, tu as dit en première partie que 6 des 8 de Haymarket était d'origine étrangère. Il y a un côté hystérie haro sur l'immigration que tu rends bien dans ton livre, et la presse, le rôle de la presse qui a joué un rôle non négligeable pour les criminaliser. Ils étaient si j'ose dire coupables d'avance grâce à la presse.
Exactement. Alors, une partie de la presse appartient aux grands manias de l'industrie de Chicago. Donc,
ça nous rappelle quelque chose
toute ressemblance avec une réalité contemporaine serait totalement fortuite. Mais blague à part, c'est toujours la même histoire. Hein, c'est-à-dire, beaucoup sont allemands, ils ont des noms gutturaux, ils maîtrisent pas très bien l'anglais. Alors, c'est assez incroyable d'ailleurs de se dire que un pays qui n'est constitué que d'immigrés en vienne à stigmatiser des émigrés qui, juste parce qu'ils sont des immigrés plus récents qu'eux. Effectivement, ils sont qualifiés de barbares, ignorants, d'Europe centrale. Enfin, vraiment, ils sont un déferlement xénophobe absolument phénoménal. Évidemment, pour encore plus décrédibiliser le mouvement, hein, et puis à s'assurer de leur condamnation. Évidemment, moi, j'ai écrit ce livre, je peux pas m'empêcher de penser à la contemporanéité de
la loi Darmanin.
Voilà, exactement. Finalement, quelle différence entre ça et les discours qu'on peut entendre sur les Syriens, les Afghans, des Maliens qui arrivent ici juste parce qu'ils fuient la guerre ou la misère, parce que finalement c'est exactement la même chose, quoi. Et donc il y a quelque chose de tristement répétitif, hein, dans cette réalité. Mais là, effectivement, ces Allemands sont vraiment qualifiés ouais, de barbares. Voilà. Et alors, il y a un chapitre, je sais pas si tu te souviens, c'est cette histoire d'amour entre un des accusés, Auguste Piz, et Nina Van Sant, voilà. Qui est une fille de la grosse bourgeoisie, qui va assister comme on va au spectacle, hein, parce que c'était un petit peu ça, qui va assister au procès, et elle y va en ayant lu tous les journaux, et elle s'attend effectivement à trouver des barbares ignorants, hirsutes, sales et brutaux, et non. Elle découvre des gens cultivés, intelligents, dont les propos politiques sont sensés, et elle en vient à se convertir elle-même au socialisme et à tomber amoureux d'un des accusés qui est derrière les barreaux.
Et qu'elle va épouser ensuite.
Et qu'elle va épouser alors qu'il est en prison.
Voilà. Donc, les huit, on peut dire, n'ont pas été choisis par hasard. On a le sentiment qu'on a choisi les leaders pour décapiter le mouvement. Et c'est le procès, certes, à ce moment-là, Chicago est regardé dans le monde entier. Comme pour une affaire suivante, au XXe siècle, qui est l'affaire Sacco et Vanzetti. C'est-à-dire que, vraiment, il y a un spectacle qui est donné à l'Amérique et au monde qui ne rehausse pas l'image d'un pays d'immigration et auquel on peut faire confiance pour changer de vie, en fait.
C'est un petit peu le drame, hein. À plusieurs reprises, mes personnages le disent, hein. Alors, c'est pas mes personnages, hein. C'est des vraies personnes, et c'est des vrais propos, hein, que je rapporte, hein. Tout est absolument authentique, hein, dans les lieux, les faits, les dates, les citations, et tout ça, et quasiment tous le disent. C'est-à-dire qu'ils viennent là, ils viennent aux États-Unis dans l'espoir de trouver un avenir meilleur, en fait, hein, parce que c'est le pays des possibles, c'est le pays du progrès, c'est le pays des libertés. Ils arrivent, il y a cette fameuse statue de la liberté. Emma Goldman en parle, elle arrive, elle est quand même subjuguée par la statue de la liberté quand elle arrive à New York en bateau.
Oui, parce qu'elle était érigée.
Elle était déjà érigée.
Mais quand ils sont arrivés, elle n'était pas érigée du tout.
Exactement.
Donc ils avaient une autre vision de l'Amérique.
Déjà, il n'y avait pas ça. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que ce symbole de liberté universelle qui est la statue de la liberté, il est systématiquement bafoué. Et effectivement, j'utilise à un moment donné, puisque celui qui vivra le plus longtemps des huit, a été contemporain de l'exécution de Sacco et Vanzetti.
Voilà.
Donc j'imagine, ça c'est pour le coup c'est un artifice fictionnel, mais j'utilise le Sacco et Vanzetti, et j'imagine que c'est Samuel Fielden est dans son ranch, puisqu'il a fini fermier dans le Colorado, ouvre le journal un matin et tombe sur cet article annonçant l'exécution de Sacco et Vanzetti. On est 30 ou 40 ans après, et 35 ans plus tard,
et il
fait le lien. Forcément, il fait le lien. Des militants révolutionnaires d'origine immigrée, condamnés injustement à une peine de mort pour des raisons exclusivement politique, parce que le patronat a décidé qu'il fallait se débarrasser et décapiter un mouvement politique. Évidemment, Samuel Fielden, ça fait ressurgir chez lui des souvenirs de son passé et de cette expérience dont il a été le témoin et puis l'acteur.
D'ailleurs, il dit bien, j'ai été jugé pour meurtre, je suis condamné pour anarchie.
Exactement.
Tout est dit. Donc, pour en revenir au côté immigration, l'Amérique, d'ailleurs, il y a une excellente série qui est passée sur Arte où on voit l'Amérique face à la Shoah. Donc, il y a toujours eu un regard méprisant pour ceux qui venaient juste de débarquer du bateau. Et ça, c'est une constante dans l'histoire américaine. Et quand on regarde la propagande qu'ils veulent bien nous vendre, ça n'a rien à voir quand on détaille, quand on fait de l'histoire sociale et politique, comme toi tu en fais dans ce livre. On voit bien les contrastes.
Oui, on retombe un petit peu sur la Relief Nary Society. Hein.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il faut faire ses preuves. C'est le pays où tout est possible, à qui s'en donnent les moyens. Voilà le message qui est véhiculé. Sauf qu'évidemment, tout le monde ne peut pas devenir Elon Musk. Et heureusement, d'ailleurs, parce que s'il n'y avait que des Elon Musk, on serait quand même bien mal embarqué. Un seul nous suffit déjà.
Oui,
donc, c'est ce rêve que vendent les États-Unis, qu'ils ont toujours plus ou moins vendu. Et donc, forcément, celui qui arrive, il est regardé avec suspicion. Déjà parce qu'il est susceptible de venir prendre sa place. Mmh. Et que c'est à lui de faire ses preuves, parce que moi je les ai faites. C'est l'idée, hein. Voilà, mais je suis un petit parallèle. Je suis allé voir The Old Oak de Ken Loach récemment.
Je vais le voir.
Et bien, il y a cette idée justement, et je trouve que le voilà, c'est une communauté de Syriens qui arrive sur
un village dans le nord,
un petit village du nord de l'Angleterre, complètement sinistré,
où les gens ont perdu l'espoir et où ça va réveiller les démons de la communauté, en fait.
Exactement, et en même temps aussi réveiller les bonnes choses, c'est-à-dire la solidarité, le fait de voilà. Donc il y a toutes ces choses-là aussi qui...
Pour les 8 de Haymarket, à part la solidarité pour payer les frais, et on ne la voit pas tellement parce qu'il y a une marche, il y a un compresseur. Le capitalisme et les capitalistes, en fait. Ils ont décidé qu'ils étaient coupables et ils vont les exécuter, quoi qu'ils fassent.
Exactement.
D'ailleurs, c'est pour ça que les accusés ont deux positions. Il y a ceux qui vont essayer de sauver leur tête, et ceux qui vont dire de toute façon, perdu pour perdu, je reste sur ma position, et de toute façon, il y en a un d'ailleurs qui avait compris que négocier les 8 heures, c'est négocier avec un système qui, de toute façon, il faut dynamiter, et il faut s'en débarrasser. Ça m'a fait plaisir de lire ça, de voir que finalement, mon point de vue, il était déjà à la base de ces gens-là il y a 2 siècles. Et par contre, ce qui m'interroge, c'est comment se fait-il que 2 siècles plus tard, on est toujours dans le même rapport de force et on n'arrive pas à se débarrasser de ce système. Donc ça m'interroge.
Si j'avais la réponse...
Moi donc.
Je me gênerais pas de la divulguer, mais malheureusement, c'est pas si simple que ça. Mais effectivement, il y a trois positions. Il y a ceux qui ont essayé de sauver leur peau, il y a ceux qui se sont positionnés en tant que martyr aussi, deux positions en fait, en se disant que peut-être en donnant, en se sacrifiant, ça servirait la cause, et voilà. Après, faut pas oublier qu'il y a quand même une solidarité énorme qui s'organise, et que si on célèbre aujourd'hui le 1er mai, c'est un hommage et une forme de
solidarité,
de rappel de solidarité internationale indéfectible envers le mouvement ouvrier et envers le sacrifice de ces 8. Et c'est pour ça que je serais peut-être pas aussi sévère que ça, parce que je trouve que
je suis sévère, c'est vrai.
Ça nous dit quelque chose, c'est-à-dire que j'ai mis en épigraphe, j'ai mis une citation
les dates les plus importantes
d'Éric Vuillard, qui dit le martyr est un piège pour ceux que l'on opprime, seul est souhaitable la victoire, je la raconterai.
Et dans la guerre des pauvres.
Dans la guerre des pauvres, qui est un excellent ouvrage que je vous conseille.
Il faut absolument
vivement
l'avoir lu.
Et effectivement, que le martyr, c'est un piège. Et que c'est la victoire qu'il faut chercher. Et d'une certaine manière, leur martyr, alors bien sûr, ça ne reste pas qu'un martyr, justement. Il y a une forme de victoire derrière. Parce que, comme je le mets dans le dernier chapitre, on voit que comment en fait leur mémoire est toujours vivante encore aujourd'hui, puisque je termine
au Pakistan
quand
avec
même,
des femmes
en 2022, des femmes voilées qui brandissent le portrait des 8 de Haymarket le 1er mai 2022. C'est-à-dire que au Pakistan, à l'autre bout de la planète, des années plus tard,
des siècles plus tard,
bah, voilà, leur ils sont vivants. Alive. Ils sont vivants, ils sont toujours là. Et donc, et les 8 heures sont une réalité pour...
Tout le monde.
Pas tout le monde, mais une grande partie du monde...
De l'humanité.
De l'humanité. Il y a encore des combats à mener, il y a des régressions, il y a des choses à faire, mais voilà, et c'est en ça que leur hommage et leur sacrifice est pas complètement vains et que c'est pas, ils sont pas complètement tombés dans un piège. C'est-à-dire que leur, c'est pas un sacrifice complètement vain et que il y a un héritage aujourd'hui. Et c'est pas seulement la journée du 1er mai comme jour férié et journée de mobilisation internationale des travailleurs, mais c'est aussi la journée de 8 heures et tout ce qui a suivi derrière. C'est-à-dire que cet héritage-là, c'est les combats qui ont suivi, c'est jusqu'au CNR, etc., etc.,
oui,
la sécurité sociale.
Et
exactement. Donc, ils sont aussi, d'une certaine manière, ils font partie. C'est-à-dire que le monde ouvrier, le mouvement ouvrier, il est pas, c'est pas un patchwork diffus. Chaque militant qui a participé au mouvement ouvrier est une composante de ce mouvement ouvrier, et tout ce qu'on doit aujourd'hui, tout ce qu'on a aujourd'hui comme acquis, et tout leur est dû à tous dans leur combat solidaire et indéfectible. Et évidemment, nous, notre responsabilité, c'est de continuer à mener ces combats, parce que pour justement, par respect pour eux.
Alors c'est peut-être pour ça que tu as mis en préface un mot de Jean-Paul Sartre,
oui,
en disant « La fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. » Dans extrait de « Qu'est-ce que la littérature ?»
Oui, oui, c'est une phrase de Jean-Paul Sartre que j'aime bien. Alors à la fois parce qu'elle elle résume assez bien son l'existentialisme, voilà. Mais aussi parce que à partir du moment où moi je me sentais en capacité de dire cette histoire, de la faire connaître à ma manière, c'était une manière donc de prendre mes responsabilités individuelles. D'ailleurs, on me dit bon, si j'ai la capacité de le faire, il faut que je le fasse. Et après, c'est pour faire savoir au monde, c'est-à-dire que le plus grand nombre le sache et ne puisse pas s'en dire innocent. C'est-à-dire, on puisse pas dire
je savais pas.
Ça, c'est la position de ce que Sartre appelle le salaud. Hein, c'est-à-dire celui qui dit ah oui, mais moi je savais pas. Oui, mais
si j'avais su.
Ah ben oui, mais voilà. Donc non. On sait. Et si on sait, on peut pas faire comme si on ne savait pas.
Voilà. Alors, Haymarket aujourd'hui. Si je sors dans la rue et que je pose la question à des jeunes, la génération montante, la relève. Je ne suis pas sûre qu'ils sachent que c'est un square dans lequel une bombe a éclaté et il y a eu des fusillades, principalement faites par la panique de policiers qui se sont même tirés sur eux-mêmes. Bon. Mais par contre, si je leur dis qu'elle a eu lieu après une manifestation réussie du 1er mai, là, tu penses que ça va marquer les esprits ? Ils vont me répondre, le 1er mai ?
Ah, ça dépendra toujours des individus que tu rencontreras, tu sais bien, Mariama. Mais je pense aussi qu'il faut avoir la foi, il faut y croire. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Je suis pas sûr que l'enjeu ce soit de convaincre le Kidam de ça, mais c'est plutôt une parabole de ces questions-là. C'est-à-dire que ben voilà, aujourd'hui voilà, tu peux aller chez le médecin en ayant une sécurité sociale, ben c'est dû
c'est au Conseil national de la résistance,
CNR, etc. Tu as la journée de 8 heures, ben tu vois, on peut dire ça. C'est, il y a des gens qui se sont battus. Il y a des gens qui ont fait grève, qui sont morts. Donc c'est des choses qu'on peut utiliser aussi, je dirais, au quotidien, bah, dans son entreprise, quand on doit se mobiliser, quand on doit débrayer, dire voilà, bah, attends, là tu vas perdre une heure de salaire, tu vas perdre une journée de salaire. T'imagines, il y a des gens, ils sont morts pour que toi t'aies 8 heures. Bon, c'est pas culpabiliser les gens, mais c'est...
Les responsabiliser,
au moins, leur mettre un petit peu leur...
Le sens des proportions.
Voilà, sens des proportions, c'est ce que je cherchais exactement.
Bien. Alors, je rappelle le titre de ton livre, Haymarket, récit des origines du 1er mai, aux éditions Luxe, dans la collection Instinct de Liberté. Alors, pour ceux qui ont le temps de passer à Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou bien République, nous le vendons à Publico. Et si vous avez l'occasion de lire les Mondes Libertaires du mois d'octobre et de novembre, il y a une recension de cet excellent livre qui est faite à l'intérieur. Le Monde Libertaire, d'ailleurs, qui était en kiosque avant, qui ensuite a été mis en mensuel, vendu par abonnement, va revenir en kiosque.
Très bien.
C'est une très bonne nouvelle, nous en sommes très contents. Et Haymarket est dans le mois de, dans le dernier numéro, et c'est normal, si j'ose dire, parce que c'est un livre fantastique, à la fois précis, pratique, et qui donne envie de reprendre la lutte. Pour ceux qui sont découragés, je vous le recommande. Parce que la lutte continue, elle n'est pas terminée, et nous vaincrons. Il ne faut même pas en douter. Merci Martin d'être venu à nous.
Merci Mariama, et je partage totalement tes derniers propos.
Merci. Merci à Jean-Michel pour la technique. Merci. Je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai fait la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du tout de Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux zizis tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
trying to pick a winner. We'll be right back. Brother Rio.
Il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, Lou. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
Je pense que quand on mettra les consorts, ils ne vont pas.
Pour
tout
sauver, pour la prendre des décisions.
Colline polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Allez. Attention, ceci n'est pas un exercice. Il alerte à la population et donc.
La connerie à ce point-là. Voilà, je dis que ça devient gênant.
Finalement, c'est un peu sale qu'ils en a dit, non ? Bah, il sert à rien de foutre.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
chouette pour une métaphore, non?
C'est pas une métaphore. C'est que t'as des phrases. Enfin, moi, je suis. Ça, c'est une métaphore.
C'est une manie que tu as de cacher partout devant la race. C'est excessivement énervant.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau code vérole tertiaire du département.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
Je vois les dingues, je les soigne.
Mais c'est une ordonnance.
Et une scellée. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 points de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts de façon puzzle.
On m'a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle.
Je pas me mettre à l'écran sur orbite, t'as pas vu du tout.
Tu marines dans le pinard comme des squids dans l'eau.
On sent plus que la bulle, c'est du 11 degrés 5. Tu causes pas, tu dégueules.
Ouais, people.
T'es tendu comme une corde.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. T'as pas entendu, je suis pas tendu.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
On te sauve ou je te sauve et on a pris des décisions.
Écoute, on te connaît pas. Mais laisse-nous te dire que tu prépares des nuits blanches, des migraines.
Attention.
Des nervous breakdown.
Une alerte à la population est en cours.
Tiens, de la part de Mickey Willis.
Oh, fais-moi le malin maintenant! Oh, fais-moi le malin!
Salut les aminches, et bienvenue dans votre nouveau Panam's Not Dead du 28 novembre 2023. Ce soir, on va se faire un petit concert, un concert de Binamé. Parce que, je sais pas vous, mais après avoir manifesté samedi dernier, on est allé à la parole errante à Montreuil pour soutenir la CNT, Petite Enfance. Et il y avait 4 concerts qui suivaient des débats, des prises de parole et une projection. Au tout début, il y a eu Julie Collère. Après, il y a eu Binamé. Après, il y a eu Los Tres Puntos. Et après, il y a eu un dernier DJ set de Dubamix. Qui était super. Voilà. Donc pour fêter un peu cette ambiance sororale et fraternelle, on va se faire un concert. Alors c'est pas celui-là parce que je n'avais pas le matos pour l'enregistrer. D'ailleurs c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé capter les 4 concerts, mais j'ai encore loupé. On va se faire un concert de 2007 de René Binamé. Voilà. J'espère que vous connaissez tous les classiques. Voilà, le son n'est pas pourrave. En tout cas, il n'est pas plus pourrave que si j'avais moi pris le son samedi dernier. Voilà, je vous laisse kiffer et on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Allez, ciao et vive le feu.